La Pentecôte, oui, c'est le jour où l'Église a reçu le Saint-Esprit. Mais il faut être plus précis. Le livre des Actes raconte comment quelque chose comme des langues de feu, nous l'avons lu tout à l'heure, sont descendues sur chaque disciple, réunis dans la chambre haute ce jour-là, et comment, après avoir reçu ces langues de feu, ils ont témoigné des merveilles de Dieu. Témoigné dans les rues de Jérusalem où se trouvaient ce jour-là des pèlerins des quatre coins du monde. Souvent, on se laisse fasciner par le phénomène du souffle et du feu. Mais la symbolique de l'esprit est pourtant très claire. Il ne s'agit pas de savoir comment ça s'est passé, si ce feu brûlait ou pas, de quelle taille étaient les langues. Non, ce qui est central, c'est de comprendre que le don de l'esprit, c'est le don de la parole. Et rien d'autre que ça. Ce ne sont pas des épées de feu, ce ne sont pas des cerveaux de feu, des cœurs de feu qui descendent sur les disciples, mais des langues. Et la langue, c'est fait pour communiquer. Le récit des Actes n'est pas écrit pour nous en mettre plein la vue, mais plein la foi. L'esprit reste invisible, insaisissable, mais ce qui est donné à chacun ce jour-là, c'est la parole de l'Évangile, bonne nouvelle pour tous. Des petites Pentecôtes, en réalité, il y en a partout dans la Bible. À chaque fois que Dieu confie sa parole à des hommes, à des femmes, à des prophètes, eh bien, on peut dire qu'il y a une petite Pentecôte. Ce ne sont pas des langues qui descendent, mais c'est l'Esprit qui est donné. Il est donné comme un livre à manger pour le prophète Ézéchiel, ou comme un doigt, une main posée sur la bouche pour le prophète Jérémie. Un appel à proclamer la parole de Dieu, dans tous les cas. Dans l'Ancien Testament, Dieu donne son esprit-parole à un prophète pour le peuple d'Israël. À la Pentecôte, Dieu donne son esprit-parole à tous pour le monde entier. Mais Pentecôte, c'est toujours le don de la parole. Eh bien, je voudrais ce matin méditer avec vous une petite Pentecôte que j'ai trouvée dans la Bible, celle du prophète Jérémie. On est en 627 avant Jésus-Christ. Israël est encerclé par les superpuissances de l'époque, hein, c'est-à-dire l'Égypte au sud et la Babylonie, l'Irak à l'est. Il se lève alors un jeune homme dont le nom message sonne comme une prière. Jérémie. Mais dans l'hébreu, ça se dit Yeremiahou. Yeremiahou, ça veut dire que l'Éternel nous mette debout, qu'il nous élève et nous fasse grandir. On dirait aujourd'hui que Jérémie, c'est un lanceur d'alerte. Il se lève et il dit ce qu'il voit. Dans les yeux, il dit ce qu'il pense. Ce qu'il pense devoir dire au roi, au peuple, de la part de Yahou. Il s'appelle Yeremiahou, Jérémie. Alors que tout le monde s'effondre d'un point de vue politique, économique, spirituel, Dieu envoie un jeune homme dont le nom est une véritable confession de foi, en laquelle chacun est invité à se confier. L'Éternel est source d'élévation. Jérémie est tout jeune. Il est natif d'Anatote. Anatote, c'est un petit bled à 6 km environ de Jérusalem. Bon, une information qui semble sans aucune importance, mais qui en fait est une information terrible. Sont regroupés là, en ce lieu, Anatote, les prêtres ripoux. les familles de prêtres qui ont essayé de tirer profit de leur fonction. Anathoth, c'est pas une sanction administrative, hein, c'est une sanction religieuse suprême, avec interdiction d'aller au temple pour eux. Jérémie est né là, il n'a pas choisi de naître dans cette famille. En même temps, un prêtre corrompu mérite-t-il une malédiction à vie ? Est-il absolument mauvais ? On se construit, chacun de nous se construit avec l'histoire de sa famille, ou l'histoire de son village, avec les forces et les faiblesses, avec les gloires et les hontes que nous ont léguées nos familles, nos histoires. Mais vous voyez ce qui fait la grande merveille du Dieu de la Pentecôte, c'est qu'il n'a, lui, Dieu, que faire des malédictions à vie et des anathèmes et des anathotes. Il vient faire du neuf dans nos vies. Il élève ce qui est abaissé, il relève ce qui est piétiné. Et Jérémie rend ce puissant témoignage. La parole de l'Éternel me fut adressée, littéralement, on peut avancer, là j'ai pas de contrôle, littéralement, la parole de l'Éternel fut vers moi, fut en moi. C'est cela le mouvement de la Pentecôte. L'Esprit Saint, le souffle parole du Dieu vivant qui vient en moi, en nous. À Pentecôte, Dieu vient à nous avec une parole et non pas avec un bâton. Et une vraie parole, elle rend libre. Libre d'accepter ou de rejeter, bien sûr. Libre de croire ou de ne pas croire, libre d'interroger toujours. Ce que ne va pas manquer de faire Jérémie. Dieu est venu en lui pour causer avec lui. Et il va s'installer entre eux un dialogue intérieur, oui, entre lui et le Dieu parole. Et la première parole que Dieu fait intérieurement entendre à Jérémie est sublime. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Cette connaissance est la base de tout. Nous ne sommes pas les purs produits du croisement du hasard avec la génétique. Nous sommes connus. C'est cela même qui fait notre dignité, notre valeur humaine. Notre présence ici-bas a du sens. Quelle chance pour un enfant d'entendre de la bouche de ses parents « Tu as une grande valeur pour moi. Tu es irremplaçable. Tu es admirable. » On peut se le dire à soi-même tout ça, hein, mais ça n'a aucun effet. Bien pauvre, celui ou celle qui n'a jamais entendu cela pendant son enfance, et je pense en particulier à nos petits voisins, ici, de Don Bosco, qui ont eu des enfances terribles. Jérémie d'Anathoth était comme l'un d'eux, un méprisé, un sans valeur, et Dieu l'a élevé, d'abord à ses propres yeux. La foi restaure en nous la dignité humaine. Elle n'est pas, la foi, un bien spirituel de consommation. Elle est la recréation de nous-mêmes dans le regard de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La Pentecôte n'a pas comme seule ambition de restaurer, d'élever notre être intérieur. Elle nous envoie à la Pentecôte. Dieu explique à Jérémie qu'il compte sur lui pour devenir source de parole pour les autres, un prophète pour les nations. Un prophète pour les nations. Alors que sa famille s'était égarée dans la recherche de l'intérêt personnel, nous l'avons dit, Dieu appelle Jérémie maintenant à se donner aux autres. L'appel de Dieu, voyez, brise la vieille malédiction et elle élève chacun à une nouvelle destinée. Elle projette chacun dans une autre histoire, la sienne, celle que Dieu veut, celle que Dieu écrit. Et Dieu va joindre le geste à la parole. Ce n'est pas une langue de feu qui descend sur le jeune homme, non ? C'est la main de Dieu qui se pose sur sa bouche. Pas pour le bâillonner, hein, mais pour libérer sa parole. Dieu, dans sa grâce, vient faire sauter les verrous dans lesquels nous enferment nos manques de confiance ou ce regard dévalorisant que nous portons sur nous-mêmes. Et Dieu ajoute cette parole au geste libérateur de la main sur la bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et il ajoute encore un petit mot étonnant. Regarde. C'est étrange. Dieu ne met pas ses paroles dans les oreilles de Jérémie. Il les dépose dans sa bouche. Et au lieu de lui dire « Voilà le message que je mets sur ta langue, maintenant parle !» Non, il lui dit « Maintenant, regarde. » C'est intéressant. La parole de Dieu, c'est premièrement un appel à regarder de ses propres yeux. C'est un appel à vivre les yeux grands ouverts. Et je fais ici un petit clin d'œil à Nadia Benabbas qui expose ces jours-ci ses œuvres et ses textes à Gradignan, au prieuré de Caillac. C'est une véritable petite merveille. Je vous invite à aller la rencontrer là-bas. Alors, comment comprendre cet appel de Dieu à Jérémie à regarder ? Je crois que cette invitation à regarder avant de parler, avant même d'être envoyé, dit quelque chose de très important sur notre façon de lire la Bible et de parler de son message aux autres. Dieu ne programme pas Jérémie en lui greffant une espèce d'implant prophétique, en le plaçant devant un prompteur divin qu'il n'aurait plus qu'à réciter sans se poser de questions. Non. Dieu lui dit, regarde, ce que Dieu veut lui montrer va d'abord pénétrer sa conscience, activer, stimuler son intelligence et nourrir sa foi. Tout l'être de Jérémie va se mettre en mouvement dans la contemplation de cette vision que Dieu lui offre à voir. Regardez, sœurs et frères, c'est l'étape indispensable à toute vraie compréhension de la volonté de Dieu. Prendre le temps d'observer, de penser donc, prendre le temps de mesurer l'étendue de la mission pour construire aussi le message à proclamer. Nous ne sommes pas des robots. Ce n'est qu'alors qu'il sera rendu capable, Jérémie, de démolir et de reconstruire, d'abattre et de planter. Par trois fois dans ce texte, Dieu lui demande d'ouvrir grand ses yeux pour observer, mais aussi pour dire ce qu'il voit. La question de Dieu résonne ici. Que vois-tu, Jérémie ? Dieu rend Jérémie acteur de la proclamation de la parole. Il n'est pas un passeur passif. Le prophète biblique n'est pas un récitant, mais un interprète vivant de la parole qu'il reçoit. Au-delà des signes inquiétants que Dieu lui donne à voir, vous les avez entendus, hein ? Guerre, opposition, chaudron bouillant, Jérémie voit un rameau d'amandier. Un signe d'espérance est posé là, au milieu du chaos général, un rameau d'amandier. Et vous savez, l'amandier est un arbre incroyable. À la fin de l'hiver, alors que les gelées sont encore vives, que la lumière est encore basse, alors que tout semble mort, avant même que n'apparaissent les toutes premières feuilles, l'amandier explose en floraison. De tous les arbres des champs, l'amandier est le tout premier à battre des mains pour annoncer le printemps. À croire que le monde ne va pas en rester là. Et à croire que la mort n'aura pas le dernier mot et qu'on peut commencer à se réjouir alors même qu'il fait froid. Au risque de passer pour des gens complètement bourrés, complètement perchés, est totalement irresponsable. C'est ce qu'on a lu dans le récit de la Pentecôte tout à l'heure. Voilà comment s'est passée la Pentecôte de Jérémie, dans la rencontre avec le Dieu parole, avec le Dieu vivant qui élève, le Dieu qui rend vivant, qui fait confiance, le Dieu qui parle, le Dieu qui montre, le Dieu qui interroge et qui finalement envoie. Frères et sœurs, en ce jour de Pentecôte, Dieu nous appelle à ouvrir grand nos yeux sur le monde pour le voir tel qu'il est, pour prendre la mesure avec lucidité de sa noirceur, des forces de mort qui s'acharnent contre lui, des pouvoirs égoïstes et destructeurs qui semblent vouloir la disparition de la création elle-même. Dieu nous appelle à devenir, dans ce chaos ambiant, des places fortes où la foi, l'espérance et l'amour trouveront refuge. Dieu nous appelle à ne jamais perdre de vue le message d'espérance qui, au matin de Pâques, a jailli d'un tombeau vide, remplissant l'univers d'une lumière intense et vivifiante. Et toi, dit l'Éternel, mets une ceinture à tes reins, rassemble donc tes qualités, tes forces, ta foi, ouvre grand les yeux, lève-toi et parle, je suis avec toi, oracle de l'Éternel. Amen.